VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 17 mai 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Claire Morin-Gibourg.
Nous commençons par les titres.
Libye, le gouvernement de l'Est dit être entré à Tripoli, affrontement.
Au Mali, la junte au pouvoir affirme avoir mis en échec une tentative de putsch dans la nuit du 11 au 12 mai dernier.
Au Tchad, 5 cadres de l'opposition ont été inculpés et incarcérés hier, notamment pour troubles à l'ordre public suite à la manifestation anti-française de samedi.
En Centrafrique, une cour spéciale entend ses premiers accusés de crimes de guerre.
Les États-Unis rétablissent une présence militaire en Somalie pour y combattre les djihadistes Chebab affiliés à Al-Qaïda.
Les combats s'intensifient dans l'est de l'Ukraine alors que le président russe Vladimir Poutine met en garde contre des déploiements de l'OTAN.
Ne manquez pas notre page sport et la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Des affrontements ont éclaté mardi à Tripoli après que le gouvernement libyen, désigné par le Parlement et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé son entrée dans la capitale, siège du pouvoir exécutif rival. Le service de presse de ce gouvernement a annoncé dans un communiqué l'arrivée du Premier ministre du gouvernement libyen Fatih Bachaga, accompagné de plusieurs ministres dans la capitale Tripoli pour y débuter ses travaux. Le gouvernement siégeant à Tripoli, celui du Premier ministre Abdelhamid Deiba, n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. Ces affrontements entre groupes armés ont éclaté à Tripoli peu après l'entrée du gouvernement de M. Bachaga, a constaté un journaliste de l'AFP.
La junte au pouvoir au Mali a affirmé lundi soir avoir mis en échec la semaine passée une tentative de coup d'État menée par des officiers soutenus par un État occidental non précisé. Le communiqué lu à la télévision d'État ne donne quasiment aucune précision sur ce qui se serait produit. Il fait état d'interpellations sans plus de détails. Il indique que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières. Aucune information n'avait filtré jusqu'à lundi soir sur une tentative de coup de force qui serait survenue la semaine dernière.
Dans le dessein malsain de briser la dynamique de refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, selon le communiqué du gouvernement de transition installé par les militaires. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, poursuit-il. Les personnes interpellées seront remises à la justice, dit-il. Le document est silencieux sur leurs identités et le lieu de leur détention.
Un responsable militaire qui a requis l'anonymat a parlé d'une dizaine d'interpellations effectuées et indique que d'autres étaient en cours. Tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour l'enquête et la recherche de complices, dit le communiqué gouvernemental. Le gouvernement y assure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme.
Au Tchad, 5 cadres de l'opposition ont été inculpés et incarcérés lundi, notamment pour troubles à l'ordre public au cours d'une manifestation samedi contre la France, accusés de soutenir la junte militaire. C'est ce qu'a annoncé le parquet de N'Djamena à l'AFP. Wakit Tama, la principale coalition de l'opposition qui avait organisé la marche, considère qu'ils ont été arrêtés à tort pour des actes de vandalisme commis par d'autres en marge ou après sa manifestation et exige leur libération immédiate. Plusieurs partis d'opposition et des mouvements rebelles exigent aussi leur élargissement.
Le président Joe Biden a approuvé le rétablissement d'une présence militaire américaine en Somalie pour y combattre les djihadistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. L'annonce a été faite par un haut responsable de son gouvernement. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Le président Joe Biden a approuvé une demande du ministère de la Défense de repositionner les forces américaines en Afrique de l'Est afin de rétablir une petite présence militaire persistante en Somalie, a déclaré un haut responsable du gouvernement américain. Il a expliqué que M. Biden a pris cette décision pour accroître la sécurité et l'efficacité des forces spéciales américaines. D'après lui, ces dernières ont passé plus d'un an à entrer et sortir épisodiquement de Somalie pour y faciliter les opérations antiterroristes. En décembre 2020, Donald Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Somalie, n'autorisant que des missions par rotation. Ces allées et venues représentaient un risque pour les soldats américains et leur faisaient perdre du temps, les obligeant à acheminer leur équipement au début de chaque rotation et de le réexpédier en fin de séjour. Le responsable américain soutient que cette décision de M. Biden a davantage à voir avec la sécurité des forces américaines, soulignant qu'elle n'a rien à voir avec l'élection dimanche d'un nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud. Il a précisé que les forces spéciales concernées sont déjà positionnées dans des pays voisins.
En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale, tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux, a entendu lundi à Bangui des accusés de crimes contre l'humanité. Une première depuis la création de ce tribunal il y a 7 ans. Mohamedou Mfa.
Les 3 hommes entendus lors de cette première audience sont Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, membres des 3R. L'un des plus puissants groupes armés en Centrafrique, ils sont accusés du massacre le 21 mai 2019 de 46 civils à Koundili et Lemouna, village du nord-ouest. Ils sont restés impassibles sous leur masque anti-Covid à la lecture de la litanie de leurs crimes présumés et des noms des victimes. Puis Adoum et Yaouba ont pris la parole et leurs premiers mots ont été pour présenter des excuses au peuple centrafricain sans qu'ils reconnaissent toutefois les faits dont ils sont accusés. Mahamat, lui, n'a exprimé aucun remords. La personne qui a donné l'ordre d'attaquer Koundili et Lemouna et Sidiki Abbas a affirmé Issa Saleh Adoum, faisant référence au chef des 3R dont la mort avait été annoncée en avril 2021. Ils essayent de jeter l'opprobre sur les uns et sur les autres, mais les victimes réelles, les rescapés de ces incidents sont là. On va les écouter et ils vont édifier la cour pour pouvoir asseoir une décision saine, a déclaré Claudine Bagazzadini, avocat des parties civiles. L'audition a duré environ 2 heures et l'audience reprendra ce mardi.
Au Nigeria, la police a dispersé hier une manifestation devant le domicile d'une nouvelle femme accusée de blasphème dans le nord du pays. Une manifestation qui intervient 4 jours après le lynchage d'une étudiante accusée de blasphème. Le point avec Abdourahman Dia.
Environ 300 personnes se sont rassemblées dans un quartier de la banlieue de Maiduguri, dans le nord-est, devant la maison d'une femme qu'ils accusent d'avoir tenu des propos offensants à l'égard du prophète Mohammed sur les réseaux sociaux. La foule était à la recherche de cette femme, mais ne l'a pas trouvée, ont précisé les témoins, indiquant toutefois que la manifestation n'avait pas été marquée par des violences. Selon un habitant, la police n'a arrêté personne et a dispersé les manifestants en tirant en l'air et en lançant des grenades lacrymogènes. Interrogé par la presse, le chef de la police locale, Abdou Oumar, a affirmé que cet incident est lié aux tensions provoquées par le meurtre jeudi dernier d'une autre femme accusée de blasphème à Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, à des centaines de kilomètres de Maiduguri. Des dizaines d'étudiants d'une école ont lapidé à mort une de leurs camarades, puis brûlé son corps après avoir lu un commentaire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux, considéré comme blasphématoire. Un incident qui avait été condamné par le président Muhammadu Buhari et les leaders religieux de Sokoto.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, l'offensive russe dans le Donbass s'est intensifiée lundi et a fait 10 morts à Severodonetsk, un important centre administratif encore sous le contrôle de Kiev, tandis que la Russie a averti qu'elle réagirait à des déploiements d'infrastructures militaires de l'OTAN en Finlande et en Suède, candidate à une entrée dans l'Alliance Atlantique, un revirement historique de ces deux pays nordiques naguère non alignés, qui est une conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine.
Et sur le terrain, une opération de sauvetage des combattants ukrainiens de l'immense aciérie Azovstal, ultime poche de résistance face à l'armée russe dans le port stratégique de Mariupol, est en cours mardi, selon Kiev, qui considère désormais que ces hommes ont rempli leur mission. La Minute Éco, Nani Talani.
Le Zimbabwe demande le soutien des pays européens pour vendre son stock d'ivoire d'une valeur de 600 millions de dollars, mais dont le commerce est interdit. Selon la Direction générale de l'Autorité des parcs et de la faune sauvage, le pays possède 163 000 tonnes d'ivoire et 67 tonnes de cornes de rhinocéros dans ses réserves. La présidence assure que les profits de la vente iront aux communautés locales proches des réserves animales. Le Zimbabwe possède la deuxième plus grande population d'éléphants au monde, après le Botswana, soit environ un quart des éléphants d'Afrique. Les exportations ougandaises de café ont diminué de 24% en glissement annuel en avril, la sécheresse dans certaines régions ayant réduit les rendements, rapporte l'Autorité de développement du café de l'Ouganda. La valeur du café a par contre augmenté de 42% par rapport à avril 2021 pour s'établir à 70,9 millions de dollars grâce à la hausse des prix internationaux du café. Terminons par la Banque mondiale, le FMI, le PAM de l'ONU et l'Organisation mondiale du commerce qui appellent à une action urgente en matière de sécurité alimentaire. Ils exhortent la communauté internationale à soutenir de toute urgence les pays vulnérables par des actions coordonnées comprenant la fourniture de vivres d'urgence, le soutien financier, la production agricole accrue et un commerce ouvert.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Demi-finale des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, zone UFOA B.
Oui, ces matchs qualificatifs de la zone B de l'UFOA se déroulent à Niamey au Niger. Quatre sélections se disputent les deux places qualificatives de cette zone pour la phase finale prévue en Égypte en 2023. Le Bénin, qui a terminé en tête du groupe A, joue aujourd'hui contre le Burkina Faso, qualifié après sa victoire 2-1 face au Ghana. Le Nigeria, premier du groupe B, et la Côte d'Ivoire, deuxième de la poule A, s'affrontent dans la seconde demi-finale.
José Pesero est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria.
L'annonce a été faite par la Fédération nigériane de football qui précise que le Portugais prend immédiatement ses fonctions. Âgé de 62 ans, le nouveau sélectionneur succède au Nigérian Augustine Iguavone, qui avait démissionné début avril après avoir manqué la qualification du pays pour le Mondial Qatar 2022. Les triples champions d'Afrique ont aussi été éliminés en huitième de finale lors de la dernière CAN au Cameroun en Égypte. José Pesero mènera son équipe aux États-Unis dès la fin du mois de mai pour disputer un match amical contre le Mexique, puis contre l'Équateur début juillet.
L'Éthiopie ne jouera pas à domicile contre l'Égypte.
C'est le site en ligne Africa Top Sport qui le mentionne. La raison, la non-homologation du stade de l'Éthiopie par la CAF. Les Éthiopiens recevront donc les Pharaons au Malawi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, annonce la Fédération malawite de football. Le stade national de Bingu accueillera l'affrontement entre l'Éthiopie et l'Égypte lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, précise un communiqué de l'instance malawite du football national. L'Éthiopie figure dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2023 en compagnie de l'Égypte, de la Guinée et du Malawi. Avant de faire face aux pharaons, les antilopes croiseront les crampons contre le Malawi lors de la première journée.
En Espagne, Luis Suarez quitte l'Atlético Madrid.
Je vais remercier un à un tous les supporters de l'Atlético. L'affection que vous m'avez témoignée dès mon arrivée m'a impressionné. Je ne l'oublierai jamais. Je vous remercie du fond du cœur et mes coéquipiers aussi. J'ai essayé de vous le rendre sur le terrain. Je me suis donné à 200% pour le club qui m'a ouvert ses portes, a confié l'international uruguayen. On gardera un très bon souvenir de lui. Il a été un magnifique joueur, un de ceux qui nous a aidés à gagner la Liga en 2020-2021. A salué Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, l'attaquant uruguayen de 35 ans et en fin de contrat cet été, n'a toujours pas dit le moindre mot sur son avenir. L'international mexicain Héctor Herrera quitte aussi les Colchoneros. Selon la presse, le milieu de terrain de 32 ans sera transféré à l'issue de la saison au Houston Dynamo, ici en MLS.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après l'épisode de la brouille diplomatique avec la France, le gouvernement malien a pris dimanche la décision de se retirer de toutes les instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'avenir de la lutte antiterroriste dans le Sahel? Avec notre correspondant Lamissa Sangaré, quelques éléments de réponse.
Daouda Kinda est un analyste des questions sécuritaires au Mali. Il pense que cette décision reflète les différends qui opposent le Mali à la France derrière temps.
Avec l'ombre de la France et l'influence de la France qui plane sur le G5 Sahel, on peut dire qu'il y avait tout un tas de problèmes, notamment avec l'arrivée au pouvoir au Mali du gouvernement de transition qui a eu beaucoup de mailles à partir avec la France.
Ce retrait met en nu également les problèmes réels du G5 Sahel, au dire de M. Kinda.
Ça signifie d'abord qu'il y a des problèmes dans le G5 Sahel. Avant, il y en avait, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, avec trois pays qui sont dans un régime transitoire, qui, à l'issue d'un coup d'État au Tchad, au Burkina, au Mali, alors que l'instrument du G5 Sahel a été conçu au préalable pour des régimes démocratiques. C'est un problème d'architecture, de sécurisation régionale. La convention de 2014 établissant le G5 Sahel, qui donne la présidence en rotation, il n'y a pas lieu que le Mali soit empêché de présider le G5 Sahel, du moment où il y a un vide juridique par rapport aux conventions du G5 Sahel sur cette question.
Avec la nouvelle donne, il y a un véritable problème pour le Mali. Comment mener la guerre contre les djihadistes sans ses partenaires du Sahel? Daouda Kinda.
La sécurisation du Mali sera très difficile. C'est déjà difficile, même avec le G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA et autres, parce que le terrorisme n'est pas seulement que le phénomène militaire. Les raisons sociales, les raisons économiques, les raisons de justice, il va falloir que tout cela soit résolu avec des coups d'État dans la sous-région qui aussi a ralenti l'organisation des armées. On peut dire que ce retrait et cette tension diplomatique entre les pays de la sous-région, c'est tout à fait un problème.
Daouda pense enfin que ces retraits pourraient avoir de graves répercussions sur l'ensemble de la sous-région.
Ce dont on a peur, c'est que le Mali soit isolé et que les autres pays aussi s'isolent et que la France s'immisce dans le jeu. Ça porterait un énorme coup en termes de projets de développement et d'opérations conjointes. Le Mali est le centre névralgique du phénomène terroriste. Si des dispositions diplomatiques et relationnelles bilatérales ne sont pas prises en amont pour assurer la coopération avec la Mauritanie, le Niger et le Burkina, ça va porter un énorme coup en termes de négativité par rapport aux politiques publiques de lutte contre le terrorisme dans le Sahel en général. Et cela pourrait même favoriser la résurgence djihadiste, notamment au Mali et dans les autres pays du G5 Sahel. Ça peut même impacter sur les pays côtiers, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, qui commencent à avoir aussi des attaques djihadistes.
Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, les militaires se sont engagés à récupérer les domaines de l'État. Commencées il y a quelques mois dans la capitale, les opérations de démolition se poursuivent dans les régions et préfectures. Les réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen est déterminé à récupérer tous les domaines appartenant à l'État. Cette dame prépare ses bagages pour quitter la maison de son enfance. Comme elle, tous les occupants, la plupart des O4, doivent libérer Cameroun City, à Conakry.
On est en train de se préparer parce qu'on a peur. On a nos affaires là-bas, on a nos enfants là-bas. Il ne faut pas qu'ils viennent nous brutaliser. Alors voilà l'état d'âme dans lequel on se trouve. Toute la cité d'ailleurs, on a des pères de famille là-bas qui ont servi pendant des années. On ne dit pas qu'on ne quitte pas, on peut quitter. Mais au moins qu'on nous laisse un délai, qu'on nous respecte. C'est pas la bonne manière, je suis désolée.
Les autorités de la transition ont annoncé une phase d'examen après la récupération de tous les biens de l'État. Pour cet analyste de l'actualité guinéenne, il faut améliorer le modus operandi. Mamadou Ridialo.
Il est bien normal qu'un de ces jours, l'État veuille récupérer ces domaines-là. Maintenant, derrière, que comme on l'a toujours dit, il faut bien justement que ceux qui représentent l'État, qui incarnent l'État dans cette opération de récupération, le fasse dans la manière, dans la procédure, c'est-à-dire aller vers ceux-là qui occupent déjà ces domaines, demander à ce qu'ils leur donnent les documents pour savoir comment ils se les ont appropriés. Est-ce que c'est de connivence avec d'autres représentants de l'État ?
La maison de l'ancien chef de file de l'opposition a été démolie il y a quelques mois, mais le gouvernement guinéen a précisé qu'il ne s'agit pas de règlement de compte. Dans les rues, chacun y va de son commandement.
Tout appartient à l'État, mais ce qui est très très important d'avoir ça à Conakry ici, parce qu'il y a d'autres ici, depuis tant colons, ils sont dans les maisons de l'État.
Ce n'est pas Conakry seulement, il y a les problèmes par là. Normalement, s'ils récupèrent ça aussi, c'est bon, parce que ça peut aider l'État et aider tous les Guinéens.
Que ce soit les domaines de l'État, on doit donner. Tout ce qu'ils ont déjà cassé, ils sont en train de faire la fondation. Ça veut dire qu'il y a un budget qui était voté pour ça.
Nous sommes au début du mois de la saison pluvieuse, vous voyez, et il y a des pauvres. Il est bien d'avertir les gens, les donner un préavis.
Ces opérations de récupération se poursuivent dans tout le pays. Même s'il y a des mécontents, aucune manifestation de rue n'est permise jusqu'aux prochaines élections, depuis le 13 mai, selon une décision de la junte au pouvoir en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Kankan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
En Côte d'Ivoire, de 16 millions d'hectares en 1960, il ne reste plus que moins de 3 millions aujourd'hui du couvert forestier. L'impact sur les terres et l'action des hommes se posent avec acuité. Le reboisement en Côte d'Ivoire à l'heure de la COP15, quel bilan ? Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Dégradation des sols et avancée du désert, la Côte d'Ivoire paye un lourd tribut, comme le relève le président ivoirien à l'ouverture des travaux de la COP15, Alassane Ouattara.
En Côte d'Ivoire, la superficie forestière qui représentait 16 millions d'hectares dans les années 1900 n'était plus que de 2,9 millions d'hectares en 2021, donc une baisse de 80%. Au rythme actuel, celle-ci pourrait disparaître entièrement à l'horizon 2050 si rien n'est fait.
Pour renverser la situation, des campagnes ont été lancées. Un jour pour 1 million d'arbres et un jour pour 5 millions d'arbres. Au jardin botanique non loin de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, une équipe de l'opération pour planter des arbres a été initiée par des organisations des eaux et forêts, des chefs d'entreprise et des jeunes. Nicolas Apata, agent des eaux et forêts.
Aujourd'hui, le défi à relever est très énorme. Nous devons planter chaque année 300 millions d'arbres. Et donc, toutes les parties prenantes doivent pouvoir poser leur acte pour qu'on y arrive.
L'opération concerne aussi les plus jeunes et les jeunes. Chez Kifleur Valérie, 9 ans.
Ce projet nous permet de nous inscrire et connaître la valeur des plantes.
Un symbole pour Rose Fabiola, 12 ans.
J'étais très heureuse pour la première fois. Planter un arbre, c'était un honneur pour moi.
Samuel Kofi, étudiant.
Je suis d'abord fils d'un planteur, donc j'ai fait le village. Je connais l'activité du planting. Donc c'est pour cela que je suis motivé.
À Aniama Adjamé, l'opération a regroupé tous les commerçants de bois d'Adjamé, de Cocody, de Yopougon et Kumasi. Gilbert Yapi, fonctionnaire à la retraite.
Il faut qu'il y ait des forêts un peu partout, comme à l'ancien temps, nos forêts sacrées. Quel que soit ce qui se passait, on n'y allait pas. Et ça crée un microclimat pour permettre de rendre la vie agréable.
Aya Yaou, au nom des commerçants de bois.
Nous voulons dire tous à la population qu'elle se rejoigne à nous pour qu'on puisse ensemble stopper la désertification.
Et les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire ont opté pour le concept cacao culture zéro déforestation. Camboussier, président de la fédération.
La campagne passée, nous avons reçu des plants d'arbres du conseil du café cacao pour commencer à les mettre dans nos plantations pour revaloriser la forêt ivoirienne.
Mamadou Sangaré, le directeur général de la société de développement des forêts de Côte d'Ivoire énumère quelques acquis.
La Sodefor capitalise plus de 220 000 hectares de reboisement.
reboisement, toutes essences confondues. Plus de 60 000 hectares de parcelles agroforestières, plus de 2,5 millions d'hectares dotés des plans d'aménagement, soit 61% de la surface totale des forêts classées.
La politique de préservation, de réhabilitation du couvert forestier d'ici à 2030 est devenue une urgence en Côte d'Ivoire. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Les États-Unis soutiennent la candidature de la Finlande et de la Suède à l'adhésion à l'OTAN, a fait savoir le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cela fait suite aux déclarations des dirigeants de ces pays après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces deux pays européens affirment que la guerre les a amenés à repenser leur propre sécurité. Davantage de détails avec Arash Arabasadi. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
À la périphérie de Kharkiv, les forces ukrainiennes continuent de nettoyer les villages repris aux soldats russes. Ils fouillent maison par maison à la recherche de Russes qui pourraient encore se trouver dans la région. Après que la Russie a bombardé pendant des semaines la deuxième plus grande ville d'Ukraine, l'armée ukrainienne affirme que les troupes russes se sont retirées de Kharkiv. Les responsables disent y avoir trouvé au moins 41 corps de soldats russes. Les hauts diplomates de l'OTAN se sont rencontrés dimanche à Berlin pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Ils ont aussi parlé des plans de la Finlande et de la Suède pour rejoindre la plus grande alliance militaire du monde qui fournit des armes à l'Ukraine pendant la guerre en cours. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Les alliés ont été rejoints ici à Berlin par les ministres des Affaires étrangères de Suède et de Finlande. Les deux pays sont des partenaires de défense proches et appréciés de l'OTAN et des États-Unis. Les États-Unis soutiendraient fermement la candidature à l'OTAN de la Suède ou de la Finlande si elles choisissaient de postuler officiellement à l'Alliance.
La Finlande partage plus de 1300 km de frontière avec la Russie. Dimanche, elle a officiellement annoncé son intention de postuler pour rejoindre l'OTAN. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que demander l'adhésion à l'OTAN serait une erreur. Le président finlandais s'est entretenu avec son homologue russe et s'est dit surpris du calme avec lequel il a accueilli la nouvelle du projet de la Finlande d'adhérer à l'OTAN. Sauli Niinisto, président de la Finlande.
I wanted just to confirm that now...
Je voulais juste confirmer que maintenant la situation a changé. Nous allons demander l'adhésion. Et de la même manière, Poutine a confirmé qu'il pensait que c'était une erreur. Nous ne vous menaçons pas, a-t-il dit. Dans l'ensemble, la discussion a été, dirais-je, très calme.
Le Parlement finlandais devrait approuver une candidature officielle pour rejoindre l'OTAN, mais l'annonce du président fait suite à une recommandation parlementaire cette semaine. L'adhésion prend du temps et l'on ne sait pas si la Russie punirait préventivement la nation européenne. Un autre point de friction est l'opposition de la Turquie à l'entrée de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, alors que l'adhésion nécessite un vote à l'unanimité. Tout cela n'est guère réconfortant pour l'Ukraine, pays luttant contre une invasion russe depuis février. Olga Stefanichina, vice-première ministre de l'Ukraine.
Ce que nous voyons avec la position actuelle de la Suède et de la Finlande, qui ont décidé de demander l'adhésion à l'OTAN, et la réponse des alliés, que cette demande soit examinée et satisfaite immédiatement, ne sert qu'un argument très évident selon lequel l'OTAN a appris de ses erreurs et des erreurs politiques commises.
Le Parlement finlandais devrait voter sur l'adhésion à l'OTAN dans les prochains jours et la Suède devrait suivre.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia et Claire Morin-Gibourg, à la mise en onde Lionel Runanira Gahima et à la console John Walker. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.